Vous écoutez On lit pour vous.
Un village qui se dépasse et qui vous attend tout l'été. Une chronique d'Éric Thérien-Nadeau, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue. Cher lecteur, lectrice, je dois vous l'avouer, j'avais vraiment hâte de vous parler de cet été. C'est ma deuxième année à la SDC du village et je peux vous dire que le retour de la piétonnisation reste un des moments les plus forts de l'année. C'est là que tout repart, que la rue change de rythme, que le village reprend pleinement sa place. D'année en année, on est toujours aussi content, contente, de retrouver les terrasses, l'ambiance et cette effervescence bien à nous. Cette année, on a clairement eu envie de se dépasser. Le premier week-end est déjà derrière nous et une chose est certaine, le village est bien vivant. On redécouvre la rue, on retrouve des visages familiers, on en croise des nouveaux, et très vite, l'énergie s'installe. Une énergie qu'on ne planifie pas complètement, mais qu'on reconnaît immédiatement. Depuis plusieurs années, ce week-end d'ouverture donne le ton. Et cette année marque un tournant. La 4e édition du championnat national de drague de Montréal devient, pour la première fois, le grand festival national de drague de Montréal. Un événement sur 3 jours qui lance la saison avec panache. Chaque édition a sa propre couleur, mais une chose reste constante, une énergie rassembleuse, festive et assumée. Mais surtout, ce week-end n'est qu'un point de départ. Une rue qui change de rythme. Tout au long de la saison estivale, la rue Sainte-Catherine change de rythme. Elle ralentit, elle s'ouvre, elle devient un espace où l'on prend le temps de marcher, de s'arrêter, de se retrouver. On y flâne, on s'y attarde, on y reste. Et pour nourrir cette transformation, on a construit une programmation qui évolue d'un week-end à l'autre avec une volonté simple, garder le village vivant, surprenant et accessible. Cette année, 11 promotions commerciales viendront ponctuer la saison, autant d'occasions pour les commerçants, commerçantes, de créer des rendez-vous qui feront vibrer le village tout l'été. Ces moments-là font sortir le village dans la rue. Ils rapprochent les gens, créent des échanges et donnent au quartier toute sa vitalité. Des week-ends qui ont une signature. On ne voulait pas seulement enchaîner des événements, on voulait créer des moments distincts, des week-ends avec une identité claire. Le retour du week-end inspiré du mythique Wigstock, le village plein la tête, du 19 au 21 juin, avec son concours « Une tête à 5 000 $ », en est un exemple parfait. Un moment où l'audace prend toute la place, où le style devient spectacle et où la rue se transforme en scène ouverte. Les fiertés culturelles, comme celles du Brésil et du Mexique, viendront aussi insuffler leur énergie au village. Des week-ends qui font voyager, qui rassemble et qui reflète la diversité du quartier. Et puis, il y a des rendez-vous qu'on est particulièrement heureux de retrouver. Le cirque débarque dans le village, qui revient du 9 au 12 juillet, transformera à nouveau la rue en un véritable espace de performance à ciel ouvert. Acrobatie, poésie, prouesses physiques et moments suspendus viendront ponctuer le quotidien, créant des instants d'émerveillement accessibles à tous. Les incontournables. Certains moments restent des repères importants. Fierté Montréal, du 31 juillet au 9 août, demeure un point culminant. Pendant 10 jours, le village devient un lieu de célébration, de visibilité et de rassemblement pour la communauté 2ELGBTQIA+ et ses alliés. C'est un moment où le quartier rayonne bien au-delà de ses frontières et où l'on mesure toute la portée de cet espace. Nous vous dévoilerons d'ailleurs plus en détail la programmation de ce festival tant attendu dans notre prochaine chronique. Le Fétiche Weekend, du 2 au 7 septembre, avec son esthétique unique et sa portée internationale, contribue quant à lui à cette identité plurielle, libre et assumée qui caractérise le village. Cet événement transforme l'ambiance du quartier et attire une clientèle variée, créant une énergie singulière et assumée. À échelle humaine. Mais au-delà des grands rassemblements, ce qui fait la richesse du village, ce sont aussi les expériences plus proches. Les balades humoristiques de Charlie Morin, les mardis du 16 juin au 1er septembre, s'inscrivent parfaitement dans cette logique. Une autre façon de parcourir la rue, de la regarder autrement, entre humour, observation du quotidien et regard sensible sur le quartier. Une occasion de ralentir et de redécouvrir le village sous un autre angle. Sous la direction du très talentueux Louis Guillemette, les cabarets Extravaganza feront de Sainte-Catherine une véritable scène à ciel ouvert tout au long de l'été. Entre performances éclatées, disciplines variées et artistes d'ici, ces rendez-vous viendront rythmer les fins de semaine et participer pleinement à l'énergie du quartier. Nouvel ajout cette année, les artistes de diffusion FAR, F-A-R, viendront également faire leur tour à quelques reprises au cours de l'été, ajoutant une touche supplémentaire de création à la programmation. Ce sont souvent ces moments-là qui marquent. Un village pour tous. Au fond, tout ce qu'on met en place repose sur une idée simple. Faire du village un endroit où tous se sentent à leur place. Un espace ouvert, où l'on peut être soi-même sans compromis, où les différences cohabitent naturellement, et où la fête devient un langage commun. Une saison qui se prolonge. La saison se poursuit jusqu'à l'automne, avec des moments rassembleurs qui viennent clore la piétonnisation en beauté. Et comme chaque année, les plantes qui auront habité la rue pendant tout l'été repartiront entre de nouvelles mains, un petit bout du village qu'on ramène chez soi et qui prolonge un peu l'été, même après la saison. Une fierté bien réelle. Personnellement, je suis particulièrement fier de faire partie de cette équipe et de contribuer, à ma façon, à faire évoluer le village. Ce qu'on construit ici dépasse largement la programmation. C'est un espace vivant, un lieu d'appartenance, un quartier qui continue de se transformer tout en restant fidèle à ce qu'il est. Et ça ne se fait jamais seul. Merci à nos partenaires, la Ville de Montréal, l'arrondissement de Ville-Marie et la Caisse Desjardins du Centre-Ville de Montréal pour leur soutien essentiel. Merci à celles et ceux qui fréquentent le village, qui y travaillent, qui y passent et qui, chacun à leur façon, le font exister. Le village, ça ne se visite pas, ça se vit. Et cet été, on en a encore beaucoup à vous faire vivre. L'été ne fait que commencer. On se voit sur Sainte-Catherine. Tous les détails de la programmation vous seront dévoilés au www.villagemontréal.ca. C'était Un village qui se dépasse et qui vous attend tout l'été. Une chronique d'Éric Thérien-Nadeau, parue le 20 mai 2026 dans le magazine Fugue.
Des péages, pourquoi faire? Un texte de Christian Rioux, paru le 17 avril 2026 dans le Journal de Montréal. Avez-vous déjà roulé sur une autoroute française? Entre Paris et Bordeaux, c'est un tapis de billards. On se croirait sur un nuage. Seul inconvénient, en plein soleil, on risque de s'endormir. Pas le moindre petit nid de poule pour vous tenir éveillé. Rien à voir avec les ornières et les cratères qui sont le signe distinctif de tant de routes québécoises. Je les pratique plusieurs fois par année en descendant dans le bas du fleuve. Après 3 pistoles, une fois après avoir quitté la 20 pour la 132, c'est une scène de guerre. Bien sûr, le climat n'est pas le même. Mais il n'y a pas que ça. Si les autoroutes d'une majorité de pays européens sont si bien entretenues, c'est notamment parce qu'elles ont des péages. 10 milliards d'euros. Je sais que le mot fait hurler. Pourtant, nos parents ne rechignaient pas à acheter leurs 25 cents dans les paniers des 5 péages entre Montréal et Magog ou pour passer le pont Champlain. Nous sommes des enfants gâtés. L'abolition des péages, cadeau du Parti québécois dans les années 1980, ne fut que la dernière étape du « tout asphalte ». Avant, on avait mis les voies ferrées au rancard. On en fit même des pistes cyclables. On n'arrête pas le progrès. Chaque année, les autoroutes françaises rapportent 10 milliards d'euros aux sociétés concessionnaires comme Vinci ou Eiffage qui les ont construites en échange d'un droit de péage. La plus grosse portion va au remboursement de la dette, 2,5 milliards, à l'entretien et près de 4 milliards à l'État. Une rente dont il ne saurait plus se passer. Depuis quelques années, les profits de ces sociétés ont monté en flèche, si bien que les juges entendront bientôt une action collective destinée à réduire les tarifs. Mais il ne viendrait à l'idée de personne de remettre en question ces péages qui permettent de faire payer la réfection des chaussées aux usagers et tout particulièrement aux poids lourds qui sont responsables de l'essentiel de leur usure. En Allemagne, seuls les camions sont mis à contribution. Le train d'abord. Les contrats avec les grandes sociétés autoroutières arrivant à échéance, l'État veut puiser dans ce pactole pour financer le réseau ferroviaire. Car les Français ne sont pas prisonniers de la voiture comme le sont les Québécois. Ils peuvent choisir le train. Le gouvernement veut aussi augmenter le transport des marchandises et a inauguré l'an dernier une ligne de ferroutage entre Cherbourg et le Pays basque qui devrait transporter 25 000 remorques de camions par an. Chaque année, je vois les poids lourds défoncer la chaussée de la 132 alors qu'il y a une voie ferrée à 400 mètres où passent chaque jour deux trains directement sortis des albums de Lucky Luke. On évoquera l'étendue du territoire. Pourtant, le gros de la population québécoise habite une superficie grande comme la Suisse. Rétablir des péages? Pourquoi pas? Mais peut-être devrait-il servir à se donner des trains dignes de ce nom. C'était « Des péages, pourquoi faire? » Un texte de Christian Rioux, paru le 17 avril 2026 dans le Journal de Montréal.
Montréal inaugure son centre animalier, un texte d'Henri Wallette Vézina, paru le 8 mai 2026 dans la presse. Après des années de débats, Montréal a finalement inauguré vendredi son nouveau refuge animalier, piloté par l'organisme ProAnima, un projet de près de 160 millions. L'établissement sera dorénavant le guichet unique pour l'accueil d'animaux abandonnés. En choisissant d'uniformiser et de centraliser les services, Montréal pose un geste fort, celui de faire du bien-être animalier une priorité. On espère que ça devienne un modèle d'inspiration pour d'autres villes, a déclaré la directrice générale de ProAnima, Annie Kerouac, en conférence de presse dans ses locaux. Au cours des dernières années, la ville a souvent tergiversé quant à la mise sur pied d'un service animalier centralisé. Un projet de méga-refuge pouvant accueillir 12 000 animaux avait même été annoncé en 2011, avant que son emplacement prévu ne soit modifié à deux reprises, puis ne soit carrément annulé en 2020. C'est finalement en 2023 que les élus ont voté pour conclure un contrat avec ProAnima, qui dispose déjà de deux autres succursales à Boucherville et Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur l'île, l'organisme sera dorénavant le seul point de contact. Il suffira de composer le 514-379-2525 pour obtenir une assistance immédiate. Jusqu'à tout récemment, la gestion animalière relevait de deux refuges, de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux, SPCA, du Berger Blanc et de Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges. La centralisation des services permettra d'harmoniser et faciliter l'accessibilité aux citoyens, a dit Mme Kerouac. La capacité d'accueil du nouveau refuge, situé sur le boulevard Pie-Neuf dans le quartier Saint-Michel, est estimée à 7050 animaux par année. Quotidiennement, l'installation peut recevoir environ 200 animaux et en a déjà traité tout près de 1300 depuis le début janvier, avant le lancement officiel. Une bonne centralisation. Sur place, le responsable des services à la population au comité exécutif, Luis Miranda, a reconnu que ce dossier n'avait pas été simple. Ça a été long, d'abord, de trouver l'endroit approprié, mais on y est parvenu. C'est une des bonnes centralisations qu'on a faites à la ville, a-t-il lancé, sourire en coin. Durant la prochaine décennie, la métropole versera 157 millions de dollars dans ce projet, soit un peu plus de 15 millions annuellement en moyenne. Pour éviter les ruptures de services, Montréal a d'ailleurs conclu une entente avec la SPCA de Montréal afin d'offrir des services animaliers de proximité dans ses installations de la rue Jean-Talon-Ouest. Des animaux pourraient, au besoin, y être orientés en passant par le guichet unique de ProAnima. Avec ce modèle, on vient vraiment renforcer l'offre de services, a jugé la directrice générale de la SPCA de Montréal, Sylvie Bourbonnière. La réalité, c'est que les besoins sont immenses et qu'une organisation à elle seule ne peut tout porter. Depuis deux ans, environ 12 000 animaux sont admis annuellement dans un refuge animalier à Montréal. Ce chiffre est reparti à la hausse depuis la sortie de la pandémie, mais il représente tout de même une baisse par rapport aux années 2010, quand on atteignait près de 20 000 animaux abandonnés chaque année. Plus de chiens agressifs. Tout cela survient alors que les récents chiffres de la ville montrent que le service de gestion animalière a géré 586 dossiers pour des chiens de haut comportement jugés agressifs en 2025. Au total, le nombre de cas rapportés a augmenté de 11% depuis 2024 et de 41% par rapport à 2021, une situation attribuée à la hausse de la population canine et au manque de socialisation et d'éducation de plusieurs animaux. Or, la majorité des dossiers d'enquête ne finissent pas par une saisie d'hébergement, a précisé vendredi le docteur Vincent Paradis, directeur de médecine de refuge chez ProAnima. La grande majorité des dossiers de morsure peuvent être gardés de façon sécuritaire dans le milieu, donc le propriétaire se conforme à des conditions de garde. Dans tous les cas, l'animal sera dorénavant hébergé et soigné au refuge. Ils vont être gardés ici, dans un environnement sécuritaire, jusqu'à ce que les agents de la prévention de la ville se positionnent à savoir si c'est une remise au propriétaire ou une ordonnance d'euthanasie, a ajouté le docteur Paradis. C'était « Montréal inaugure son centre animalier », un texte d'Henri Wallet Vézina, paru le 8 mai 2026 dans la presse.
Le Bécherel québécois reconnaît la réforme du participe passé. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir. Et si les pommes que j'ai mangées, GE accent aigu, n'étaient plus une faute? La toute nouvelle édition du Bécherel québécois aux éditions Urtubiz présente pour la première fois la réforme des accords du participe passé. Page 159, l'ouvrage, citation, recommande l'invariabilité du participe passé conjugué avec avoir. Fin de citation. Une mention que jamais un étudiant ne va lire pendant ses devoirs, selon Isabelle Laberge d'Urtubiz, mais qui provoque la liesse des spécialistes de la langue du Québec autant que des courriels inquiets de lecteurs à la maison d'édition. Le nouveau Bécherel signale systématiquement la réforme de l'accord du participe passé. S'est réjoui sur les réseaux sociaux le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français, GQMNF. Le livre, citation, reconnaît ce que le Conseil international de la langue française et la Fédération internationale des professeurs de français recommandent, poursuit la publication. Le PP, participe passé, employé avec « avoir » peut toujours rester invariable. Le PP, employé avec « être », peut recevoir en tout temps l'accord du sujet. Fin de citation. C'est dans sa section « Grammaire du verbe » que le Bécherel expose désormais le problème du participe passé. Le problème? D'abord, c'est un accord presque exclusif à l'écrit qu'on n'entend pas à l'oral. Qu'on entendait avant? Annie Desnoyers, étudiante au doctorat en linguistique et porte-parole du GQMNF, rappelle que fut un temps où on prononçait en français les finales vocaliques allongées pour marquer le pluriel ou le féminin. On faisait alors sonner le S ou le E en fin de mot. La disparition de ces sons s'est faite des années 1600 à 1800, poursuit-elle. À partir des années 1800, à la création de l'école obligatoire en France, on a ressuscité ces usages pour les règles d'orthographe, même s'ils n'étaient plus audibles. Depuis 200 ans, quand les enfants francophones arrivent à l'école, ils sont obligés d'apprendre un système orthographique qu'ils n'ont jamais ou presque jamais entendu. Le Bécherel rapporte ensuite que les règles d'accord du participe passé avec avoir et un complément direct antiposé sont peu respectées. Citation, « On entend très souvent « les règles que nous avons enfreintes », note-t-il, plutôt que la forme régulière « que nous avons enfreinte ». Fin de citation. Finalement, cette règle, citation, est l'une des plus artificielles de la langue française, note l'ouvrage de référence. C'est le poète français Clément Marot qui l'a formulée en 1538, en prenant pour exemple la langue italienne, qui a depuis renoncé en partie à cette règle. Fin de citation. La nostalgie de la règle difficile. Pour Isabelle Laberge, directrice au secteur pédagogique chez Urtubiz, l'inclusion de la réforme du PP n'est qu'une des nombreuses petites adaptations du nouveau Bécherel. On est revenu au vert nostalgique de la couverture. On a remis les tableaux de conjugaison. On a amélioré la lisibilité des notes en relief. Les textes sont écrits avec l'orthographe rectifiée, autre nouveauté qui réjouit les linguistes, et on a 95 nouveaux verbes, dont des québécismes et des néologismes, toutes des adaptations propres à notre contexte linguistique. Car depuis 1980, le Bécherel québécois est complètement autonome de son équivalent français produit par les éditions Attier. Pour Urtubiz, qui met son Bécherel à jour à peu près aux 10 ans, on a vu les éditions 2006, 2012 et 2026, cette année était le moment. 2036, ça faisait loin, indique Mme Laberge. Cette réforme des PP est proposée depuis 2014 au moins. Pourquoi l'introduire maintenant? Parce que de plus en plus de linguistes et pédagogues la réclament, dont sept associations importantes, incluant les associations québécoises et belges des professeurs de français, le Conseil scientifique de l'éducation nationale du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France, et études pour une rationalisation de l'orthographe française d'aujourd'hui. Le dictionnaire numérique Usitaux inclut aussi la réforme des PP, mais c'est un outil moins connu. Le Becherel, parce qu'il est grand public, fait passer cette réforme des publications et manuels spécialisés vers tout un chacun. Pour la linguiste et professeure à la TELUC Mireille El-Chakar, le Québec est à l'avant-garde sur plusieurs sujets de la langue. La féminisation, la rédaction inclusive, les équivalents français pour remplacer les anglicismes, la lexicographie. Sur l'orthographe, on est plus frileux, alors qu'on devrait utiliser cette position d'avant-garde pour faire avancer la norme du français, estime-t-elle. Les exceptions en petits caractères. Qui sont les détracteurs de cette réforme? Parmi les spécialistes, il n'y en a que très peu, avance Annie Desnoyers. Les commentaires négatifs viennent surtout du grand public et sont souvent très affectifs, pas basés sur des faits, observe-t-elle. On va y parler de nivellement par le bas, par exemple, ou « moi je l'ai appris, pourquoi les autres ne l'apprendraient pas ?» Madame Desnoyers souligne également que nombreux sont ceux qui pensent maîtriser l'accord. Il y a 12,5 pages d'exceptions dans le Grevis. Qui peut écrire « ils se sont vus » V-U-S et « ils se sont plus » P-L-U et m'expliquer l'accord? La règle proposée par la réforme n'est pas apparue par magie, dit avec le sourire Mireille El-Chakar. Les linguistes ont regardé comment fonctionne vraiment le participe passé en français en dehors de la règle empruntée à l'italien du XVIe siècle. Dans 95% des cas, le PP reste invariable en réalité. La proposition n'est pas d'enlever la règle, car la langue, ce sont des règles et des mots, mais de la rationaliser en notant les exceptions. Les éditions Urtubiz ont reçu déjà assez de courriels à ce sujet qu'elles ont une réponse prête à dégainer. Citation : l'ouvrage ne modifie en rien la règle actuelle et ne suggère aucun changement dans l'application, lit-on. La règle classique demeure entièrement valide et constitue toujours la référence explicitée dans les tableaux. Fin de citation. On sait que la langue, c'est l'usage. Autrement dit, ceux qui la parlent et l'écrivent sont ses ultimes décideurs. Ce sont eux qui feront que la réforme passera ou ne passera pas. À moins que le ministère de l'Éducation et le ministère de la langue française obligent son enseignement. Ce qui serait un geste vraiment pionnier, selon les spécialistes interviewés. C'était « Le Becherel québécois reconnaît la réforme du participe passé », un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir.